Patricia Martin, votre invitée à présent est médecin, la docteure Véronique Fournier, responsable du centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin à Paris.
Oui, et qui a aussi fondé l'association Vieux et Chez Soi. Véronique Fournier, bonjour.
Bonjour.
L'Assemblée nationale a donc voté cette nuit le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. L'adoption définitive aura lieu dimanche soir. Ce qui inquiète certains parlementaires, c'est plutôt d'ailleurs le système d'information qui consiste à identifier les personnes infectées. Mais ce dont nous allons parler avec vous, c'est du débat sur l'argent du système de santé qui est lancé, du système de santé qui est lancé plus que jamais. Il faut, dites-vous, repenser le soin en fonction de l'âge et il faut une médecine sobre et adaptée. Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Cela signifie, me semble-t-il, que le soin proportionné, le juste soin, n'est pas forcément le même en fonction de l'âge. Il faut savoir que être hospitalisé en réanimation n'est pas une épreuve facile à passer. À 80-90 ans, on la supporte moins bien et on en sort en moins bon état et on a moins de chances de s'en sortir que quand on y rentre à 40 ans ou à 50 ans. Donc, il me semble qu'il faut réfléchir à si il est aussi raisonnable d'aller en réanimation quand on a ces âges-là que précédemment et que peut-être à 80 ou 90 ans, oui, pardon, je vous interromps.
Non, pas du tout. Mais ça veut dire que dans les services d'urgence et de réanimation, on sait que la question se pose, mais est-ce que vous êtes en train, parce que j'imagine qu'il y a des auditeurs qui vont être choqués par ces propos qui ne sont pas politiquement corrects, mais qui évidemment sont une source de réflexion essentielle. Ça veut dire que toutes les vies ne valent pas la même chose ?
Bien sûr que si, toutes les vies valent la même chose. C'est absolument évident, et pour un médecin, la priorité, c'est de soigner la vie qui arrive devant lui et qui est en danger. Mais il faut aussi savoir ne pas faire du mal à la place de faire du bien. C'est le premier principe de la médecine. Et parfois, il vaut mieux un bon soin, un soin juste, qu'un soin disproportionné. Il me semble que peut-être l'urgence aurait été en période de Covid d'avoir plus de personnel dans les EHPAD et plus de masques et plus de possibilités d'éviter la contamination plutôt que de dépenser beaucoup d'énergie à transporter des gens très âgés en réanimation alors qu'on n'était pas sûr que la réanimation puisse les tirer d'affaire et qu'on était assez certain que ça allait leur provoquer une grande agression physique et aussi psychologique.
Docteur Fournier, vous pensez que mettre, par exemple, placer un patient très âgé dans un coma artificiel, le ventiler, ça s'apparente à de l'acharnement thérapeutique ?
En tout cas, je pense que la question se pose de façon beaucoup plus aiguë pour une personne de 80 ans ou de 90 ans que pour une personne de 40 ans, ça c'est certain.
Alors, il y a plus de 10 000 personnes, hein, le bilan est partiel, mais qui seraient mortes donc en EHPAD. Est-ce que finalement, on sait vraiment dans quelles conditions ces personnes-là sont mortes, les résidents atteints du Covid-19 ?
Écoutez, je ne crois pas qu'on sache très bien comment ces personnes sont mortes, parce que, comme je vous le disais, ce sont des lieux dans lesquels il y avait très peu de gens pour les aider à mourir et pour les accompagner à mourir. Ce sont des lieux dans lesquels il y a très peu de personnel. Il y a très peu de présence soignante, médicale ou infirmière. Il y a des EHPAD qui, la nuit, n'ont qu'une aide-soignante ou une assistante médico-psychologique présente, ce qui est déjà très bien, mais ce qui n'est pas forcément suffisant quand plusieurs personnes présentent des signes de détresse vitale. Et donc, personne ne sait très bien ce qui s'est passé. Dans ces cas-là, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Et donc, ce que je pense, ce qu'on sait par contre, et ça c'est sous ma casquette de présidente du Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie que je parle, ce qu'on sait c'est que beaucoup de gens ont essayé de se mobiliser à distance pour accompagner ces personnes à mourir, mais il y a eu très peu de présence sur place et probablement il faudrait effectivement à l'avenir repenser ça. Ce n'est pas possible que tant de gens soient morts sans qu'on sache précisément ce qui s'est passé, sans qu'on ait pu correctement les accompagner.
Donc pas d'organisation réelle de soins palliatifs dans les EHPAD, un accompagnement largement insuffisant et une présence des familles qui a cruellement manqué.
Une présence des familles qui a cruellement manqué et les directeurs d'EHPAD étaient pris entre deux feux. Protéger leurs autres résidents et leur personnel et faire en sorte d'une présence minimale et d'une humanité minimale auprès de ces résidents qui devenaient en difficulté. Ce que nous a appris aussi, je pense, cette épidémie, c'est que beaucoup de gens se sont mis aux soins palliatifs et ont essayé de faire avec les conseils de la Société française des soins palliatifs. Et peut-être que ça, c'est une bonne leçon, c'est-à-dire que je pense que nous avons appris tous, médecins, que finalement, on peut faire des soins palliatifs et on peut essayer d'accompagner et de limiter l'inconfort et la souffrance au lit du patient, même si on n'est pas un grand spécialiste de soins palliatifs. Et ça, peut-être que toute la population pourrait s'y mettre pour que justement, la prochaine fois, eh bien, ces morts soient mieux accompagnés.
Docteur Fournier, cette nuit, l'Assemblée nationale a voté donc la prolongation de l'état d'urgence et surtout le fichier contact Covid qui va permettre de recenser chaque personne détectée et les proches également. Faites-vous partie des médecins qui estiment que c'est une brèche inouïe dans la protection de la vie privée ?
Je pense qu'il faut effectivement que les fiches contact soient faites par, je préférerais moi que ça soit fait par des enquêteurs plutôt que par une application internet. Je pense que c'est une agression forte de la vie privée.
Véronique Fournier, les questions d'éthique fondamentales que vous soulevez posent la question du consentement du malade. Alors, il y a des directives anticipées qui sont possibles, elles ne sont pas toujours faites, le malade n'est pas toujours en état de dire ce qu'il souhaite, et il y a aussi le souhait ou la pression de la famille. Donc, on voit bien à quel point tout ça est complexe.
Oui, alors, vous avez tout à fait raison de souligner cette notion de consentement. Ceci dit, ce que je pense, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont capables de consentir à l'avance et aussi au moment où les choses arrivent, y compris des gens qui sont très âgés et y compris des gens qui sont dans des états de dépendance avancés. Nous avons l'habitude, en éthique clinique, de voir cela, que les équipes nous appellent en nous disant « ils ne disent rien, mais quand on s'approche de près et qu'on prend le temps, très souvent les gens sont capables d'exprimer des choses ». Et ce que je vous exprime là, qui est que les gens d'un certain âge, parfois n'ont pas envie de traitements très agressifs et ont envie de traitements proportionnés uniquement et ont envie d'être accompagnés plutôt que d'être transférés en réanimation, en catastrophe parce qu'ils sont en état de détresse vitale ou transportés aux urgences tout simplement. Eh bien, il y en a beaucoup qui sont capables de le dire. Donc, il faut aller à la recherche du consentement, y compris des gens dont on pense qu'ils ne sont pas capables de consentir.
Et ce qui souligne l'énorme écart qu'il y a évidemment entre le laisser mourir et le faire mourir. Véronique Fournier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin cardiologue, fondatrice du centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin. Merci beaucoup.
Merci madame, bonne journée.